Michel Fortin.
Boulevard 102.1.
Alors, vous êtes à l'antenne de Boulevard 102.1. Émission Actualité ne prend pas de congé spécial du dimanche soir. C'est la première fois qu'on en fait une un dimanche soir. D'habitude, l'actualité ne prend pas congé dans les jours fériés. Pour rappel, c'est demain le jour du vote. Très important d'aller exercer votre droit de vote demain. Les bureaux de scrutin sont ouverts de 9h30 demain matin à 21h30. Donc, déjà 7,3 millions de Canadiens qui ont usé de leur droit de vote lors du vote par anticipation. Alors, s'il vous plaît, allez voter. Peu importe pour quel parti vous allez voter, c'est important. Il y a plein de pays qui n'ont pas ce luxe-là d'avoir un droit de vote. Donc, utilisez-le, profitez-en. C'est très important pour notre démocratie. Et justement, pour tous les résultats électoraux, demain soir, émission spéciale de l'actualité ne prend pas congé. Émission spéciale Résultats électoraux à compter de 20h. Je serai accompagné par Farnel Morisset, un petit nouveau sur les ondes de Boulevard 102.1, Lambert Drainville qui sera avec nous également. Red sera là. On aura aussi Max Larouche qui va être là pour les résultats. Alex Laramin sera là pour les résultats également dans la grande région de Montréal parce qu'on va être diffusé à Québec sur les ondes de Boulevard 102.1 et également à Montréal sur les ondes du 99.5 Montréal. J'ai avec moi le plaisir et le bonheur d'avoir en studio le député sortant du Parti conservateur du Canada dans la circonscription de Louis-Saint-Laurent. Et là, M. Deltel, il faut que je réussisse à bien le dire. Aquarenrac.
Bravo, félicitations.
Merci. Qui est en fin de campagne électorale, justement. Gérard Deltel, merci de vous être déplacé en studio ce soir.
Hey, c'est moi qui vous remercie. En fait, on est vraiment à quelques pieds à peine de la circonscription de Louis-Saint-Laurent.
Vraiment?
Parce que auparavant, c'était dans la circonscription avec le nouveau découpage Pierre Bertrand Est et Ouest. Et puis, nous sommes dans la portion Est, celle de Pierre Paulus. Vous êtes en bonne main.
Oui, exactement. Oui, Pierre Paulus, qui est le député de ma circonscription, Charlebourg de Saint-Charles, depuis longtemps. J'ai connu à mes années au patron Charlebourg, un homme très généreux là, pour le domaine communautaire. Okay, oui. Ouais. Êtes-vous confiant pour demain, malgré le fait que présentement, le Parti conservateur est encore un peu retard dans les sondages?
On est toujours confiant, puis on ne prend jamais rien pour acquis. Alors, malheur à celui qui dit « Oui, c'est fait, puis on va gagner. » Puis wow, c'est pas de même, ça marche. Il faut d'abord voter, puis après ça, ben, faites-vous élire, puis après ça, on s'en parlera. Alors, ça va bien, on est content d'avoir sillonné, évidemment, dans mon cas, la circonscription, mais partout au Québec, partout au Canada, nos candidats ont travaillé très fort. Puis là, ben, maintenant, c'est les gens qui vont décider comment ça se passe.
Est-ce que des exemples récents dans le monde politique vous encouragent par rapport au sondage? Et là, je pense à Donald Trump aux États-Unis, lors de la dernière élection présidentielle, où c'était somme toute très serré et finalement, ça a été un run Marie Trump contre Kamala Harris. Et je vais penser ici à Québec, avec l'élection de Bruno Marchand comme maire de Québec. Personne ne voyait ça arriver dans les sondages. Est-ce que ça donne un élan de confiance pour le Parti conservateur?
En fait, il faut toujours faire attention parce qu'historiquement parlant, les gens qui votent conservateurs sont toujours un peu sous-évalués dans les sondages. Et là, c'est pas une question de dire, oh, les médias... Non, c'est pas ça, là. C'est juste que, mathématiquement parlant, les gens qui votent conservateurs sont toujours un peu plus discrets et il y a beaucoup cette année qu'on voit des jeunes qui sont difficiles à sonder. Non pas qu'ils veulent rien savoir, c'est juste que pour les rejoindre, pour les sondeurs, c'est pas facile. Tous les sondeurs sérieux vous diront que c'est difficile d'aller rejoindre les jeunes actuellement, d'autant plus que maintenant, ben, tout le monde a son cellulaire et tout ça, alors il n'y a plus de téléphone vraiment de terre, comme on disait. Alors, c'est pour ça qu'il y a toujours une petite prime à l'urne, et ce qu'on sent dans la tendance actuellement, c'est que ça se resserre beaucoup plus qu'on le pense. Alors, pour ça qu'il n'y a strictement rien de joué, là. Puis malheur à celui qui décide tout de suite comment ça va se passer. Puis c'est vrai dans nos circonscriptions, si vous vous regardez à Canada 338, là, me dire à ce moment-là, c'est un petit peu pharaonique comme résultat que je risque d'avoir demain, mais j'ai jamais pris ça pour acquis, jamais. Et c'est pour ça qu'il y a des dizaines et des dizaines de militants qui travaillent dans notre équipe pour que demain on puisse sortir le vote, comme on dit.
Oui, oui.
Alors ça se peut que vous recevez des téléphones, c'est vrai chez nous, c'est vrai dans d'autres partis, mais c'est ça la démocratie.
Oui, c'est ça, puis c'est la game de tous les partis politiques. Dans la région de la capitale nationale, quand même de fortes chances pour les conservateurs de s'établir dans Beauport-Limoilou avec Hugo Langlois et dans Montmorency-Charlevoix, Gabriel Hardy.
Absolument. Et ça, tout le monde le reconnaît. Faut comprendre aussi que c'est des luttes qui sont serrées et c'est très bien ainsi. Lutte serrée, ça veut dire que ça fait de très bons débat et de très bonne approche. Moi, je peux vous dire que pour avoir fait campagne une demi-journée dans Beauport-Limoilou avec Hugo Langlois, c'était assez impressionnant. Là. Hugo, disons que je n'ai pas eu besoin de revenir quatre fois. Là. Il connaît la game un petit peu. Et c'est rare de voir un talent politique aussi naturel que M. Langlois. Il ne faut pas se cacher non plus. Puis, je sais de quoi je parle. J'ai été journaliste pendant 20 ans avant que je fasse de la politique. Et que ça va faire 16 ans et demi que je suis engagé en politique active. Et c'est clair que quand vous avez fait un petit peu de télé, de médias, ben, c'est sûr que ça nuit pas. Et dans le cas présent, Hugo, son père a été maire pendant 17 ans à Beauport et un maire qui a laissé une très belle trace et un très bon souvenir. Alors, c'est sûr que ça ne nuit pas non plus. Cela dit, si on ne vote pas sur un nom, on vote sur une personne. Et il y a des gens de qualité dans tous les partis qui se présentent, mais on est confiant que les gens vont voter pour nous cette fois-ci.
Vous étiez encore dans les médias, dans la fameuse guerre des fusions municipales, alors que Jean-Paul Lallier était justement l'adversaire et de Jacques Langlois et de Ralph Mercier et de la mairesse Boucher.
Absolument. Et puis, la grande, ce qu'on oublie beaucoup, c'est que la grande réalisation de Jean-Paul Lallier, c'est évidemment d'avoir fait les fusions municipales à travers la province. Parce que c'était lui qui était... M. Lallier était une personnalité très forte, qui aurait très bien pu être premier ministre du Canada ou du Québec.
Dans son
cas, je ne penserais peut-être pas imaginer être premier ministre du Canada pour des raisons fondamentales. C'était un fier souverainiste.
Oui, en effet.
Et ce n'est pas un défaut, ce n'est pas ma game, ce n'est pas mes amis.
Mais exactement.
M. Lallier était M. Lallier. Et il aurait, c'est lui qui a été le vrai leader provincial des fusions municipales. Et on sait que ça a amené de grands débats. Mais on sait aussi qu'en bout de ligne, tous ceux qui étaient contre sont finalement rangés avec la fusion municipale. Et on se souviendra aussi que Mme Boucher, qui était la grande personne qui était contre les fusions, une fois le mandat fait, une fois les quatre ans faits de la ville fusionnée, elle a été élue, on s'en souviendra, avec un raz-de-marée, alors qu'elle avait fait campagne sans pancarte. C'était assez exceptionnel.
Oui, elle était assez exceptionnelle, la mairesse Boucher. Partie sûrement un peu trop tôt, là, malheureusement. Là.
Il n'y a
pas de doute là-dessus. Pourquoi le Parti conservateur réussit à bien s'établir ici en capitale nationale, mais que c'est plus difficile, exemple, dans la grande région de Montréal? Qu'est-ce qui explique ça?
C'est ça. Moi, c'est ce que j'appelle le mystère Montréal. Comment ça se fait que Montréal, ils sont pas capables de comprendre qu'on est des bonnes personnes. Non, évidemment, ça, je caricature un peu brutalement. Mais je pense que Québec, il ne faut jamais prendre Québec pour acquis. Hein. Souvenons-nous que Québec a toujours changé de couleur, a toujours eu les trois couleurs. Au moment où on se parle, au provincial, vous avez un député du PQ, deux députés de Québec solidaire, puis cinq députés de la CAQ. Actuellement, et ça va changer, en fait, nous le souhaitons évidemment que tout le monde soit conservateur partout, bien entendu, mais vous avez actuellement des députés du Bloc québécois, des députés libéraux et des députés conservateurs. Québec ne doit jamais être prise pour acquis. C'est ça qui est intéressant avec la dynamique de Québec. Et même pour vous dire, la seule fois où Québec a parlé d'une seule voix au fédéral, c'était pour le NPD.
Vague orange.
7 sur 7 en 2011.
Ben oui, vous m'aimez.
Fait que moi, quand les gens nous disent « Hey, vous autres, à Québec, c'est facile, vous êtes conservateurs. » Non, un instant, là. Québec ne doit jamais être pris pour acquis. Et c'est très bien ainsi.
Est-ce qu'on est plus critique en politique à Québec? Il y a plus de radio parlée. Moi, je sens que les gens sont vraiment intéressés à la politique. Oui. C'est-tu une... je vais le dire comme ça, c'est-tu une conséquence, justement, du fait que Québec n'est jamais prise pour acquis?
D'aucuns pourraient dire que c'est l'œuf et la poule. Est-ce que les radios parlées sont populaires parce que, justement, il y a des gens à Québec qui sont plus informés et qui participent plus au débat? Je ne vais pas dire plus informés parce qu'il faut être quand même très honnête là-dedans, mais qui aiment défendre des idées, qui aiment débattre, qui aiment aussi parfois changer d'idée. On appelle ça l'évolution. Et c'est correct ainsi. C'est ça la richesse politique de Québec, de ne jamais rien prendre pour acquis. Et au plan municipal, on sait que quand on aime quelqu'un, on l'aime solide. Tu sais, M. Lallier, ça a été élu quatre fois.
Monsieur
Labeaume a été également. Et c'est des fortes personnalité aussi qu'on a à Québec.
Exactement. Pour rappel, on discute présentement avec Gérard Deltel, qui est présent en studio avec nous, député sortant du Parti conservateur de la circonscription de Louis-Saint-Laurent, Aquawanrack. Alors, on parle de la fin de campagne électorale. Est-ce que les élections jouent trop dans le Grand Toronto à l'heure actuelle? Est-ce que le Grand Toronto prend trop de place au Canada par rapport justement au reste du pays?
Écoutez, c'est 10 millions sur 40 millions.
Comme pas le choix.
Naturellement, il y a un intérêt qui est porté là-dessus, mais il n'y a pas... moi, je peux vous dire une chose. Actuellement, notre chef se promène, M. Poilievre, fait un marathon de rassemblement dans le sud de l'Ontario. Mm-hmm. Puis là, c'est à coup de 5 000 à chaque fois, là, à Oakville, que ce soit à Peterborough, je viens de l'Étoile.
Donc, vous sentez un élan.
Ah, c'est clair que pas pour rien que quand on a gagné une partielle de façon assez spectaculaire en plein cœur du centre-ville de Toronto, de ce qu'on appelle vraiment le hardcore là, de Toronto. Là, bang! On a fait un gain là. Et je voyais encore récemment notre collègue, M. Small, qui est le député de la place. Ça va bien, là. Ça va très bien, ces affaires. Alors, et on voit aussi, d'un océan à l'autre, là, M. Poilievre a tenu des rassemblements à coût de 4 000, 5 000 partout, là, mais à chaque fois, là, grosse affaire. Pourquoi? Parce qu'on sent qu'il y a une vague de fond qui est là. Mais cette vague de fond-là doit se manifester aussi par des votes, et c'est pour ça qu'il faut aller voter. Et bien des gens pour qui ça va être la première fois d'aller voter, allez-y, c'est votre avenir qui se décide. Et nous, on pense que sérieusement et objectivement, on a le meilleur plan pour redresser la situation. C'est pas vrai que ce qui s'est fait pendant 10 ans de temps qui a affaibli l'économie canadienne va être meilleur avec la même gang qui a fait ça pendant 10 ans de temps. Est-ce qu'on est prêt à payer un 4 ans encore avec les libéraux ou au contraire, on fait un vrai changement, un changement conservateur avec Pierre Poilievre puis l'équipe des conservateurs ici à Québec pour vraiment changer les choses? Les gens, les jeunes personnes, allez voter demain. Allez voter.
Justement, parlons-en. Pourquoi on voterait pour le Parti conservateur du Canada?
Parce qu'on a les meilleures approches qui se veulent responsables, réalistes et pragmatiques. C'est pas dogmatique, notre affaire. Oui, on a un partage tout à fait intelligent de baisse d'impôts et de taxes et de coupures et en même temps d'investissements majeurs. Et ça, c'est la trilogie qui est importante et c'est la balance qui doit être faite. Et nous, on veut baisser les impôts de 15 % pour la première braquette. On veut baisser la taxe et annuler la taxe pour l'achat d'une première maison. On veut inciter les villes à construire davantage en payant la moitié des frais qui sont des frais d'aménagement qui coûtent une fortune pour des nouvelles maisons et pour des nouvelles constructions. On veut investir davantage aussi dans la défense. Quand on sait qu'ici, dans la région de Québec, on a des entreprises qui travaillent directement là-dedans. On veut également permettre aux gens d'avoir plus d'argent dans leur poche et surtout de faire le vrai développement nécessaire de notre plein potentiel de richesses naturelles et d'énergie. Pendant 10 ans de temps, on a mis des bâtons dans les roues là-dedans. Nous, on veut enlever les bâtons pour accélérer les investissements qui vont créer de la richesse, de la vraie bonne richesse, parce que ce sont nos richesses naturelles qui vont améliorer la situation partout à travers le monde. Si on vendait le gaz naturel canadien à l'Inde, l'Inde serait capable de réduire de 2,5 millions de tonnes leur pollution, Ça, là, c'est trois fois plus que nous.
C'est du gagnant-gagnant, là.
C'est gagnant pour la planète, puis c'est gagnant pour les industries canadiennes, c'est pas gagnant pour l'Inde. Il faut développer notre potentiel de richesse naturelle et d'énergie, et nous, c'est ce qu'on veut faire.
Justement, on parlait avec la ministre Maïté Blanchette-Vizina la semaine dernière, après son projet de loi, jeudi matin dernier, après son projet de loi sur l'industrie forestière, et je lui ai posé la question, un projet comme GNL Québec, est-ce que c'est quelque chose que la CAQ envisagerait de faire pour diversifier l'économie? Elle n'a pas fermé la porte. Donc, sentez-vous qu'il y a un courant positif envers ce type de projet-là?
Oui, il y a un courant positif parce qu'il y a consensus d'un océan à l'autre, et particulièrement ici au Québec, d'arrêter notre dépendance aux États-Unis. Bien, si on veut arrêter notre dépendance aux États-Unis, il faut créer notre autonomie en matière de ressources naturelles et d'énergie. Et nous, ce qu'on veut, c'est vous savez, les grands projets comme ça, c'est pas le gouvernement qui les fait, c'est les entreprises privées qui voient une possibilité et tout se fait selon les cadres législatifs pour être sûr que ça se fasse correctement. Mais la pire chose à faire, c'est un gouvernement qui s'investit et qui s'introduit dans le processus des ressources naturelles. Je vais vous donner un exemple qui est absolument
abrutissant.
C'est l'exemple de Trans Mountain, un pipeline dans l'Ouest canadien qui était sous l'égide d'une entreprise de Houston, au Texas. Tout était en marche, tout allait bien. Du jour au lendemain, le gouvernement Trudeau achète ce pipeline-là de 4,2 milliards de dollars. C'est deux fois le prix qui était évalué. Et après ça, on fait les travaux d'aménagement de construction. Ça devait coûter 7 milliards. On est rendu à presque 35 milliards. Presque 5 fois plus cher que prévu.
Donc, on est mieux de laisser le privé, justement, développer ce type de projet-là et être là pour les accompagner.
Et tel que le disait un article de la presse de Radio-Canada en 2019, celui qui a donné l'idée au gouvernement libéral d'acheter un pipeline, ce qui est une absurdité totale, d'autant plus qu'on se rend compte que ça a coûté quasiment 40 milliards de dollars au Trésor public, bien, c'est le député libéral de Louis Hébert. J'ai beaucoup de respect pour M. Lightbound, mais je vais vous dire une chose, sa décision, sa proposition n'était pas bonne, mais c'est son gouvernement qui l'a appliquée aussi. C'est pour ça que je vous dis, les ressources naturelles, il faut que ce soit développé par l'initiative de l'entreprise privée, mais il faut que ce soit calibré de façon intelligente et responsable par les conservateurs.
Par le gouvernement.
Exactement. Et le conservateur.
Vous avez le droit de vous, de vous projeter dans le futur, si vous voulez. Vous avez 60 ans, M. Deltel, oui. Ça fait une vingtaine d'années que vous faites de la politique active. C'est votre dernier mandat ou vous avez encore la piqûre?
Ben, demandez ça aux gens de Louis Salorac à Wenrack, qui vont vous le dire dans 4 ans.
Ouais, supposons que vous êtes élu, ce que je crois qui va arriver dans votre circonscription.
Ah, il y a rien de sûr.
Ouais, je sais qu'il n'y a rien de sûr, mais bon, laissez-moi jouer au Gérard Estrade pour 2 secondes. Est-ce que vous pensez avoir encore cette piqûre-là dans 4 ans?
Ah, je souhaite l'avoir. Vous savez, on ne se présente pas pour un seul mandat. On veut accomplir le mandat, mais il faut toujours penser en fonction de 2 mandats. C'est toujours la question qu'on se pose, au même titre que je me la suis posée il y a 3 ans et demi, puis avant, puis tout ça. Tu fais ça pour au moins, tu veux t'engager pour là, mais après ça, pour en faire un peu plus. Mais c'est toujours 6 mois avant qu'on décide, ben go, no go. Alors, si d'aventure, je suis honoré de la confiance pour la 7e fois des gens de Louis-Saint-Laurent, Caronrac et auparavant Chauveau provincial, j'en serais très honoré, puis tant mieux. Je serais très heureux de continuer à faire le travail. Et après ça, ben, on verra bien, mais oui, ça me tente encore.
Cool. J'ai une petite dernière question plus personnelle pour vous. Vous avez été dans les médias durant longtemps. Oui. Avez-vous déjà animé des soirées électorales?
Animé, non.
Non.
Participer à toutes les élections, ça, c'est clair. Je me souviens quand M. Landry, l'élection de 2003, M. Charest avait gagné, M. Landry avait perdu. Et là, M. Landry, il avait rentré dans la salle. Et puis, bon, c'était pas là où j'étais, il était à Montréal. Mais comme j'étais un commentateur, ben, un journaliste sur place, alors disons que M. Landry avait pris beaucoup de temps à aller sur le stage, sur comme scène. On dit. Alors, j'ai parlé quasiment 6 minutes de temps non-stop sur la biographie de Bernard Landry. Jusqu'à ce que m'amener dans mes oreilles résonne. OK, c'est bon, Gérard, c'est correct, là.
Puis vous étiez capable de le faire de mémoire?
Ben, c'est le plaisir du métier, ça.
Wow. C'est incroyable. Avez-vous un conseil pour moi? Je vais animer la soirée électorale demain sur les ondes de boulevard.
Restez vous-même. Ouais. La pire chose dans les médias, et c'est vrai aussi pour la politique, c'est de penser qu'on va faire comme.
En effet.
Restons soi-même. Quand j'étais journaliste, évidemment, les grands de ce monde journalistique, comme Bernard de Rome, étaient pour moi une inspiration, mais jamais je me serais vu en faisant comme Bernard
de Rome. Devenir un Bernard de Rome,
il faut être soi-même. Et c'est en politique, on voit ça trop souvent, des gens qui essayent de faire comme l'autre. Fais pas comme l'autre. Reste toi-même. Inspire-toi. Inspire-toi de l'un et de l'autre avec les bons éléments qui t'attirent. Et jamais essayer d'être comme. Il faut être soi-même comme vous le faites si bien.
Merci. Une petite dernière, tiens, qui me vient en tête. Qui est votre inspiration politique?
Ah, il y en a plusieurs. Sincèrement, il y en a plusieurs. Quand je disais, moi, je n'ai pas d'idole personnelle, mais je reconnais de très grands traits, que ce soit pour les Churchill, les De Gaulle, Roosevelt, ou encore, évidemment, ici au Canada, Mulroney. Pour moi, Mulroney, ça demeure toujours le plus grand des plus grands premiers ministres canadiens de par sa stature. Il y avait toutes les qualités de toutes les réalisations qu'il a fait. Anglais, français, il pouvait être extraordinaire dans le small talk, comme on dit, aller voir les gens sur le terrain et de nous faire honneur à la maison Blanche, à l'Élysée ou à l'ONU. Alors, et en anglais et en français, dans les deux cultures, avec une aisance tout à fait remarquable. Je me souviens d'ailleurs, une fois, il avait dit, il faisait des blagues sur John Turner et Jean Chrétien. Il disait le soir, « The guy from the Main Street, now the guy from the Bay Street, and the guy from Bay Street is now the guy Main Street. » Alors, il faisait des blagues comme quoi, tu sais, M. Turner et M. Chrétien s'étaient échangés. C'était le gars de Bay Street qui était devenu le gars de Main Street et tout ça. Mais dis-moi, de toute façon, anyway, both of them vote for me. Et Main Street et Bay Street avaient voté pour M. Mulroney. Juste Mulroney avait ce talent-là extraordinaire.
M. Deltel, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée d'élection demain.
Merci bien.
Et au plaisir de se parler là, au retour des élections là, à compter de mardi.
Avec grand plaisir et grand bonheur. Et n'oublions pas, il faut aller voter.
Oui, exactement. Ne l'oubliez pas. Allez voter de 9h30 à 21h30 demain. Tous les bureaux électoraux sont ouverts au Québec. Allez voter. Déjà 7,3 millions de gens ont utilisé leur droit de vote avec le vote par anticipation. Courte pause. Vous êtes à l'antenne de Boulevard 102.1. Vous écoutez l'actualité. Ne prend pas congé. Après cette pause, on parle avec le chef de l'opposition à la Ville de Québec, Claude Villeneuve. Quelle a été la place de la capitale nationale dans cette campagne électorale fédérale? On en parle avec principal intéressé.
Une station créée pour les gens de Québec.